I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, à peine le temps de mettre la veste et c'est parti pour 30 minutes pour partager les ondes positives de mon invité. 30 minutes pour prendre le temps d'être à l'écoute d'une femme cette fois-ci qui va nous partager ses ondes positives de l'innovation, ses ondes positives de l'enseignement, ses ondes positives de la transmission des savoirs, ses ondes positives de la vie. Tout simplement, à travers un chouette parcours. Madame, mesdemoiselles, messieurs, au pied levé, elle est dans le studio et je la remercie pour cela et pour le reste. C'est Laure Morel.
So good, so good, I got you.
Bonjour Laure.
Bonjour.
Vrai professionnel au pied levé, un petit SMS à 21h30 hier soir pour savoir si tu pouvais venir à l'émission pour remplacer une invitée malade et hop, sympa, tu es là. Merci, ça me fait très très plaisir Laure. Tu es directrice d'une... Alors ça me fait très plaisir, pas pour le remplacement au pied levé, pour qu'on puisse, en cette période où on se pose pas mal de questions sur les orientations, que je puisse te donner un peu la parole pour nous raconter la belle histoire d'une belle école. C'est l'ENSGSI. C'est une école d'ingénieurs publics qui fait partie du corpus des écoles d'ingénieurs de l'Université de Lorraine, tu en diras deux mots. Elle est spécifique parce qu'elle est plutôt petite, elle est plutôt à taille humaine. Et je vois plein d'étudiants qui sont un peu perdus, qui ont un peu peur. Et voilà. Et peur de ces grandes écoles, de ces grandes universités. Et là, vous cultivez un particularisme qui est de pouvoir accueillir et prendre soin en même temps des étudiants qui en ont plus besoin, chacun son parcours, chacun sa vie. Comment t'es venu ce virus de l'ENSGSI ?
Le virus de l'ENSGSI. J'ai eu la chance de croiser une personne formidable, Claudine Guida, qui était la directrice de l'école donc il y a 30 ans, puisque l'école a eu 30 ans. Et qui m'a fait confiance et qui avait des valeurs que je partageais. Des valeurs, effectivement, de croire en l'humain et de dire qu'en fait, un étudiant, c'était pas seulement un cerveau bien gonflé, c'était une tête bien faite, mais aussi un corps bien fait et surtout une façon de pouvoir travailler avec les autres, une dimension très humaine.
Et donc, on commence cette émission en faisant un grand coucou donc à Claudine Guida, et ça fait du bien. Laure, raconte-nous quelle est la particularité, j'évoquais la taille humaine de l'école, mais quel est l'enseignement que vous dispensez à l'ENSGSI, pour qui, pourquoi, pour quelle entreprise, quel besoin de société ?
Alors, il faut savoir qu'il y a 30 ans, en fait, l'école est née d'une demande des industriels, notamment les patrons de PME, qui ne trouvaient pas, en fait, d'ingénieurs un petit peu couteau suisse. C'est-à-dire des ingénieurs qui allaient avoir des compétences scientifiques, mais aussi des compétences managériales. Donc, j'allais dire, le coup de génie de l'équipe qui a créé l'école, hein, il y a 30 ans, c'est dès le début d'inclure 20% d'enseignement de type managériaux, sciences humaines. Et effectivement, et au départ, d'ailleurs, on nous disait, mais vous êtes une vraie école d'ingénieurs ? Parce que, bah, oui, bien sûr, on avait les enseignements scientifiques, mais aussi ces dimensions-là. Et puis surtout, il y avait la pédagogie par projet. C'est-à-dire que dès le début, et ça continue aujourd'hui, nous avons des entreprises qui nous font confiance, qui nous donnent des projets industriels, et on a des groupes d'étudiants, de 4 ou 5 étudiants, qui pendant toute l'année vont répondre à une vraie problématique, un vrai problème industriel, et accompagnés par ces entreprises qui souvent sont locales. Donc ça peut être aussi bien des entreprises que des associations. Par exemple, on a bossé pour les Restos du Cœur ou les collectivités de plus en plus qui ont besoin d'innover. Et donc, j'allais dire, le fil rouge sur l'ENSGSI, c'est on va apprendre à nos étudiants à développer leur capacité à piloter des projets d'innovation, que ce soit de l'innovation de produits ou de services ou de procédés.
Tu peux donner quelques exemples très concrets, si ce n'est pas un peu de secret défense ou de secret
non,
production
voilà, ouais. Par exemple, une entreprise qui embauche beaucoup de nos étudiants, c'est Decathlon. Avec Decathlon, on a beaucoup de produits qui sont issus en fait de projets avec nos étudiants, comme par exemple le système de la pop-up qui était très ingénieux. Voilà, c'est des
pour la tente, la tente pop-up, la fameuse tente,
oui, tout
qui
à fait,
toute seule, là, oui. Qu'on arrive moins facilement à replier.
Je suis d'accord, mais parce qu'on n'a peut-être pas géré cette partie-là d'ailleurs. Et effectivement, donc c'est issu en fait d'un 48 heures pour innover. D'accord. Donc d'un atelier pareil. On a aussi le sac à dos qui épouse le dos.
Ouais.
Pour les cyclistes, c'est
ouais,
pareil,
ouais,
c'est
bien,
issu.
Ouais, ouais.
Donc, on a beaucoup d'étudiants qui sont.
Ah, ouais, ça vient de chez nous, ça.
Ouais, 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 très fier, très fier.
Ah.
Et puis après, on travaille pour des entreprises locales, Norémat, qui fait en fait les engins, qui sont très importants d'ailleurs. Il faut être bienveillant avec les accoroutistes, hein, ces gens qui conduisent ces machines, qui font l'entretien des bords de route. Et c'est très important pour la sécurité, la visibilité. Et ben, on travaille avec eux, et notamment un projet était d'améliorer l'intérieur de l'habitacle, pour effectivement que ce soit un peu plus ergonomique et que ça facilite le travail en fait des personnes qui sont à l'intérieur et très souvent très longtemps.
Allez, parce que j'aime bien ça, un petit exemple du côté des collectivités territoriales éventuellement.
Oui, au niveau des collectivités, ben là par exemple, on a travaillé au mois de novembre sur les idées de la rénovation en fait de la place Carnot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette place ? Et c'est un vrai enjeu parce qu'en fait, ben, y a des habitants.
Dire, il y a des contraintes. Hein, si tu dis habitants, on ne peut pas dire que c'est une contrainte.
Oui,
mais
il y a les habitants qui sont sur la place et puis, par exemple, ben, qui en ont marre de certaines nuisances.
Ouais.
Et puis, ben, il y a monsieur et madame tout le monde qui aiment bien avoir la foire au mois d'avril. Donc, comment faire cohabiter ça?
Et puis, parking en dessous.
Il y a un parking en dessous, mais par exemple, on pourrait en faire un espace où il ferait bon venir lire, par exemple, venir se retrouver en valorisant notre patrimoine qui est le bois quand même. Hein. On a de très très belles forêts. Donc, il y a un aménagement de cette place qui peut être fait.
Il y a des fonctions urbaines aussi,
exactement.
De circulation. De...
Oui, mais ça ne nous fait pas peur puisqu'on a l'école, mais on a aussi donc master... en ingénierie urbaine, donc on peut faire cohabiter en fait différents types de publics et travailler avec les architectes, c'est très intéressant.
Alors voilà, justement, on y vient parce que c'est ça qui m'a impressionné en regardant vite fait les cursus possibles, c'est pas des parcours à la carte, on peut pas dire ça, mais une multitude de parcours, de croisements d'enseignements, de savoirs. Raconte-nous voir un tout petit peu, parce que quand on regarde la liste, on peut être un peu perdu.
Alors,
la structure des enseignements, c'est quoi? Quel diplôme?
Alors, le premier diplôme, c'est le diplôme d'ingénieur, donc de l'ENSGSI. On est une école généraliste. Ça veut dire qu'on va donner, en fait, des compétences et des connaissances dans des matières scientifiques, notamment. Et puis après, les étudiants, ils vont avoir la possibilité de gagner d'autres compétences par des doubles diplômes. Donc l'école a des doubles diplômes avec l'étranger. On peut aller au Chili, on peut aller en Colombie, on peut aller en Argentine, on peut aller en Espagne. Et puis on a des doubles diplômes avec d'autres institutions de proximité, comme l'ICN Business School. Donc on a...
Là, c'est une compétence management qu'on va aller chercher.
Management avec l'IAE. De plus en plus...
Alors l'IAE, on va chercher quelle autre compétence en
pareil, on peut avoir en RH ou en management, c'est identique, mais ou en gestion administrations, mmh. Gestion des entreprises et des administrations. Puis aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants aussi qui aiment bien un double diplôme avec faculté de droit et d'économie. Et puis on a des doubles diplômes avec aussi Télécom Nancy. Donc voilà, parce que ben, y en a qui aiment bien développer ses compétences, notamment avec le numérique et l'intelligence artificielle. Donc j'allais dire, moi j'aurais aimé vivre à cette époque. Parce que en fait, nous, ben, je ne vais pas dire mon âge, mais il y a quelques années, quand on voulait partir à l'étranger ou faire des doubles cursus, sortir en fait des chemins bien balisés.
Oui, on rentrait dans une école d'ingénieur, on faisait une école d'ingénieur,
voilà.
Et puis les RH, brof.
On le faisait après, c'est-à-dire qu'après, on allait dans l'entreprise et puis on faisait une formation après. Mais là, on peut tout faire, en fait. Donc, moi, je crois que ça dépend de la capacité et de la volonté des étudiants à entreprendre, à vouloir. Enfin, c'est merveilleux. Les études aujourd'hui sont merveilleuses. On peut tout faire. Il faut juste avoir envie. Puis, à un moment donné, on perd une année. On perd pas une année. On gagne sur d'autres choses.
Tu voulais en parler de ça, de l'histoire de perdre une année. Tu veux dire, déjà, c'est pas perdre une année. Qu'est-ce que t'appelles cette année où on peut se donner la possibilité de vivre autre chose?
Alors on voit dans mon école, mais en général, hein, dans les écoles d'ingénieurs, on voit que à un moment donné, une envie de faire ce qu'on appelle une césure, c'est-à-dire de couper sa formation, souvent à la fin de la deuxième année, entre la deuxième et la troisième année.
Ça veut dire que c'est pas forcément fléché, c'est au choix des étudiants.
Oui,
avec et vous acceptez que ils fassent une pause et qu'ils reviennent plus tard.
Exactement. Et on voit de plus en plus, ce sont sur des choses qui sont totalement qui sortent du contexte académique. On va avoir des exemples. Il y en a un, il voulait faire pendant 6 mois, il est parti avec son vélo en Amérique latine et il a fait un tour d'Amérique latine. Et à chaque fois, il travaillait dans des fermes, dans des endroits. Voilà. Mais je pense que d'un point de vue humain et par rapport effectivement à son futur métier d'ingénieur, je pense qu'il a développé là des compétences d'empathie relationnelle qu'on peut pas donner nous avec 3 années ou même 5 années de formation, puisque l'école, c'est une spécificité de l'école aussi de l'ENAGSI ici, on est une école qu'on appelle à bac plus 5 et à bac plus 3, c'est-à-dire qu'on recrute aussi bien là après le bac sur le concours GEPI Polytech, et on recrute aussi sur après les prépas, les CPGE, à bac plus 2. Donc en fait, on a un double flux qui est super intéressant parce que ça donne en fait, on n'est pas en consanguinité. On a des étudiants qui ont sorti après le bac et puis qui ont déjà travaillé un peu avec nous, puis d'autres qui sortent de prépa, puis on mélange tout ça. Et pour l'innovation, c'est explosif.
Alors en même temps, cette école, et tu le revendiques haut et fort, elle fait pas partie souvent des classements qu'on voit d'écoles d'ingénieurs qui sortent, on va pas citer les titres de la presse parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais de ces grands titres nationaux qui vous font des classements fruits de la data, fruits de la data, et qui vous disent voilà la première école d'ingénieur, la deuxième école d'ingénieur. Pourquoi tu ne concours pas? Pourquoi tu ne cours pas après? Pourquoi tu acceptes, mais tu te positionnes autrement?
Alors, merci pour cette question. En fait, il y a des choix éditoriaux qui font que les revues qui font ces classements-là prennent des positions. Nous, le fait d'être à taille humaine, on le revendique, fait qu'on peut être disqualifié parce que on
d'entrée.
D'entrée. Voilà.
S'il faut former son contingent de 250 étudiants à la fin de l'année.
Voilà, ils prennent un critère, on n'y est pas. Bon, je dont acte. Sauf que, à un moment donné, aussi, on mélange du public et du privé. Il faut savoir qu'à l'ENAGSI, on est public. Donc, c'est 600 euros pour des non-boursiers et zéro pour des boursiers. Donc, évidemment qu'à un moment donné, en termes de force de communication, chiffre d'affaires, on peut pas rivaliser avec des écoles qui font payer 9 ou 10 000 euros. Donc en fait, on mélange et à un moment donné, les étudiants, ils comprennent plus parce que déjà, ils savent plus le nombre d'écoles en fait qui sont accréditées. Il faut savoir que c'est 204 écoles, donc tout classement qui ne prendrait pas 204 écoles, en fait, il est partiel. Donc on va revoir ces mathématiques. La bonne base, la règle de 3, x sur 204 égale, et on a le pourcentage en fait d'écoles qui sont classées dans un classement. Et à ce jour, il n'y a aucun classement qui fait un 100%. Donc ce qui peut expliquer qu'à un moment donné, on est positionné à une 20e place, le coup d'après on va être 60 et le coup d'après 80.
Qu'est-ce qui fait selon toi alors, du coup, tu n'as pas d'objectif, on va dire que tu es la directrice de l'établissement, mais qu'est-ce qui fait en tant que directrice de l'établissement la force pour les étudiants, pour leur avenir, je veux dire professionnel, mais aussi d'hommes et de femmes?
Alors, moi, la force de l'ENSG ici, c'est d'être à taille humaine. Ce sont des promos que nous revendiquons de maximum 70 étudiants. C'est une mixité. On a une quasi-mixité. On est à 48-52. Allez, on nous l'accorde.
Bon, et on en est... C'est pas mal.
Ouais, on en est très, très fiers.
Tu nous raconteras tout à l'heure, je ne veux pas te couper, mais tu nous raconteras comment vous avez fait un bond d'un seul coup d'un seul.
Oui,
vas-y.
Oui. Donc, taille humaine, il faut tout pour faire un monde, mais ça nous permet d'avoir des coachs qui font un accompagnement personnel et professionnel de nos étudiants. C'est-à-dire que très souvent, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, on va déjà travailler à ce qu'on ne veut pas faire. C'est plus facile. Et après, on va les aider à faire des choix de double diplôme, des choix dans les stages qu'ils vont pouvoir conduire. pour faire en sorte qu'au moment où ils partent de l'école, eh ben, ils arrivent dans l'entreprise qu'ils ont voulu et effectivement en toute conscience de cause. Et si on arrive à faire ça, alors on a réussi notre mission.
On se retrouve juste après la pause musicale pour savoir comment tu as fait un bond en parité.
Oui.
C'était le choix musical de mon invité Laure Morel qui nous invite à des tangos endiablés argentins.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Pourquoi ce choix de l'Argentine, Laure Morel? Nous allons attaquer les trois dates importantes de votre vie et ça en fait partie juste avant. Je voulais conclure là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait un bond en parité à l'ENSGSI? L'anecdote est intéressante.
Alors, il y a maintenant presque une dizaine d'années, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à toucher plus que ce qu'on le faisait le public féminin, parce que ESSI, l'école s'appelait ENSGSI, École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes Industriels. Et système industriel, ça faisait mécano, boulon, et les filles ne voyaient pas qu'on était une école généraliste. Coup de génie de l'équipe précédente de dire à un moment donné, eh ben, on va essayer, on change le nom de l'école en génie des systèmes et de l'innovation. En 3 ans de temps, on n'était plus coloré, connoté, ESSI, système industriel, comme les ESSI, comme les enseignements qui étaient dispensés au lycée.
Et là, les filles sont arrivées.
Merci,
Laure. Allez, j'avais envie d'aller en Argentine parce qu'on vient d'écouter ce tango, tu nous l'expliqueras un petit peu. Tu aimes bien ce tango-là, juste pourquoi, quand même, pour débriefer?
J'aime le tango, ce tango-là, parce que j'adore déjà cette musique et parce que le tango, c'est à la fois quelque chose d'humain et de très technique. Sensuel, humain et technique. Je trouve que c'est un beau mélange.
Cette alliance-là, on va les retrouver dans tes trois dates importantes dans ta vie. À commencer par la technique, si tu veux bien. C'est le 5 novembre 98. C'est clap de fin sur une vie d'études.
Oui, c'est le jour où je soutiens mon doctorat. Donc après, qui sanctionne 8 années d'études. C'est la fin des années fac, hein, comme on dit. Donc c'est un renouveau, ça y est, je rentre dans la vie, pas active, j'y étais déjà, mais voilà, ça y est, je suis docteur et je vais pouvoir prendre un poste à l'université.
Tu as travaillé sur quoi comme sujet?
Toujours pareil, processus, amélioration des processus d'innovation, et notamment j'ai travaillé à la mise en place d'un référentiel emploi compétences pour former les ingénieurs sur ces thématiques.
Tu préparais l'avenir.
Oui, mine de rien. Mine de rien, quand on s'y rapporte 98, voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de référentiel emploi compétences. Déjà à l'époque, c'était le sujet de ma thèse.
Bon, ça, c'était la thèse, voilà. Mais avant, la petite Laure, elle a grandi où elle est...
Alors, moi, j'ai grandi ici. Je suis nancéenne. Hein. Et donc, j'ai fait mes études lycée. J'étais à Jeanne d'Arc. Ah. Voilà. Et puis après, j'ai su rester à l'université parce que on a une chance incroyable. Hein. On l'oublie, mais il y a tout ce qu'il faut hein, au niveau de l'université. Hein.
On a la chance, hein,
Nancy. On a la chance, hein, Nancy, on peut embrasser toutes les carrières. Donc,
et puis l'université, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, s'ouvre aussi et permet d'aller faire ces bols d'aération à l'extérieur et tout ça, c'est quand même une chance extraordinaire. C'est intégré maintenant dans notre université, en tout cas, je sais pas.
Oui, puis on a la chance avec l'université, on a accès aussi, donc, comme je disais, les propres doubles diplômes de l'école, mais aussi à ceux de l'université. Donc c'est un portefeuille incroyable, on peut rayonner dans le monde.
Avant de rayonner dans le monde, une deuxième date importante dans ta vie, c'est le 8 juillet 2001.
Ouais, c'est la naissance de ma fille. Allez, c'est à nouveau une nouvelle aventure, un nouveau départ. Ben oui, je deviens maman et je vois arriver ce petit bout qui, à un moment donné, quand elle est arrivée, j'ai vu que ses yeux. Elle avait déjà des grands yeux, ils sont restés, des grands yeux très bleus. Et voilà, c'est une nouvelle étape. Et je pense que les personnes qui écoutent comprendront qu'on devient parent, c'est pour la vie.
Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Alors les gens qui écoutent comprendront. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, ce changement pour la vie ? C'est ce changement de statut, tu as évoqué le passage de la vie étudiante où on tourne une page, et voilà, on s'engage. Là, il y a le moment où on accueille un enfant dont on a une responsabilité.
On passe en second. Barycentre, il bouge. On pense différemment. Et puis, je pense qu'aussi, en étant parent et moi en étant dans le monde de l'éducation, je pense qu'aussi, on a envie, ça résonne. On a envie de leur dire, allez, on peut tout faire. Et puis de contribuer au développement de notre société. Et je pense que, voilà, ma fille, elle fait ses études aussi à Nancy. Et je suis très contente qu'elle puisse effectivement bénéficier d'un enseignement de qualité parce que je l'ai déjà dit, je le redis, on est vraiment très très gâtés.
Encore une petite question perso, mais parce que justement tu croises des étudiants et des jeunes aujourd'hui, où on voit que les statistiques démographiques de la parentalité ont plutôt tendance à être repoussées, voire effacées carrément. Voilà, c'est-à-dire que des jeunes font le choix de vivre en couple sans enfant. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens un petit peu déjà en tant que directrice d'un établissement universitaire ? Et puis toi, la maman que tu es, par rapport à ce que tu disais, c'est les gens qui m'écoutent comprendront ce changement de statut. Toi, comment tu vis ça par rapport aussi à tous ces capteurs de la société que tu as dans ton établissement, que tu croises de par les étudiants qui travaillent ?
Alors,
ça va, ma question est un peu complexe,
mais
où je veux en venir ?
Oui, oui. Alors, effectivement, à force de dire que la société, on va pas dans le bon chemin et tout, les étudiants, des fois, disent, oui, moi, je sais pas, responsabilité d'avoir un enfant aujourd'hui. Mais globalement, effectivement, même si on repousse, on le voit, hein, on repousse un peu plus tard, parce que, on a envie de profiter, les études sont aussi longues. Hein. Mais moi, les exemples au niveau de mon école, parce qu'ils sont super sympas, les anciens, ils nous envoient, on reçoit plein d'avis de faire-part, de mariage, de naissance.
Parce qu'en plus, ça sert de mariage.
Ah ouais, oui.
C'est mieux Tinder.
Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et on voit qu'effectivement, c'est plus tardif, mais globalement, non, je trouve que moi, au niveau de mes étudiants, enfin, mes diplômés, je trouve que voilà, on a plutôt des gens qui font le pas, qui font le saut.
Troisième date importante et on reste dans cette dans cet esprit où tu disais, par rapport au tango qu'on a écouté, il y a de l'humain, il y a de la technique, il y a de la recherche, il y a de la sensualité. Une troisième date importante dans ta vie, c'est avec la famille, tous les trois, vous êtes partis. Deux fois trois mois, de l'autre côté de l'Atlantique, pour une immersion donc en Amérique latine. Qu'est-ce qui vous a pris, Madame Morel ? Expliquez-vous.
Alors, c'était une opportunité, une proposition par des collègues de m'inviter dans leur université. On a accepté. Donc, c'est avril 2005, on part pour 6 mois et une expérience incroyable. Donc, 3 mois à Mendoza, c'est en Argentine, au pied de la cordillère des Andes. Et puis après, 3 mois à Santiago du Chili, donc de l'autre côté de la cordillère des Andes. Magnifique. La découverte de deux pays avec des gens incroyables. C'est une occasion aussi où je réapprends l'espagnol, qui fait qu'aujourd'hui, je suis bilingue. Et puis, j'ai des souvenirs, des choses incroyables. J'ai skié sur la pré-cordillère des Andes. Fait de la luge aussi avec ma fille. C'est des choses incroyables qui vous façonnent. Et puis quand je suis revenue, cette envie de faire partager ça aux étudiants, aux collègues. Et donc j'ai amorcé des conventions avec ces pays pour pouvoir envoyer les étudiants là-bas.
Mais dans une vie professionnelle, on peut faire une étape à la fois familiale et professionnelle comme ça aujourd'hui ?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Tout à fait. En fait, on peut faire ce qu'on appelle des détachements ou des délégations. Donc en fait, pendant 6 mois, l'université nous offre cette possibilité.
Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté à la famille?
Alors moi, ça m'a professionnellement,
trio.
Ça m'a apporté un renouveau, un ballon d'oxygène. J'ai vu d'autres façons d'enseigner, d'autres façons d'étudier aussi. Puis se remettre à étudier une langue, c'est là qu'on voit que la mémoire, elle est plus aussi...
Alerte
que quand on était jeune. Et puis, d'un point de vue personnel, c'est une expérience incroyable. C'est une expérience qui reste
à vie. Dernière question, alors, parce qu'il faut qu'on rentre dans les délais. J'ai un responsable technique, sinon il va nous couper. Alors, quelle est l'innovation que tu as envie d'apporter à l'ENSGSI la prochaine ?
La prochaine innovation que j'ai envie d'apporter à l'ENSGSI, j'ai vraiment, on l'a amorcé, mais c'est pour. Je viens d'être réélu en fait pour un deuxième mandat, donc pour 5 ans. Je vais vraiment appuyer sur tout ce qui est développement durable et soutenable au niveau de l'école. On avait déjà commencé, mais je pense que c'est pas des enseignements d'e-juin. Ça doit vraiment être intégré dans les projets industriels, dans la façon même de mener les enseignements.
Merci Laure. On est en février, on prépare la rentrée déjà. C'est les portes ouvertes en ce moment.
Oui, JPO le 17 février.
Allez,
venez
la pub
nombreux.
Est faite. Merci Laure d'avoir pris le temps de t'arrêter. Et puis au pied levé encore une fois, un grand merci. Je t'embrasse Laure.
Merci.